En 2022, cette année donc, Tinder va fêter ses 10 ans. 10 ans que les algorithmes de l'application tracent un chemin vers des partenaires d'un soir ou d'une vie. Tinder, pour qui ne connaîtrait pas, c'est cette application qui vous promet de vous aider à rencontrer l'âme sœur en vous proposant des profils que vous devez liker ou passer. Et quand deux personnes se like, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un match, la drague peut alors démarrer. En 2019, l'autrice Judith Duportail, furieuse de ne jamais rencontrer qui elle voulait, réclame l'intégralité de ses données aux géants américains. Elle en fait un livre, L'amour sous algorithme, qui a eu un écho mondial. Elle est présentée à l'époque par le Guardian à Londres comme la française qui fait trembler Tinder. Et ce livre a été adapté en documentaire, diffusé ce soir à 23h sur France 2. Bonjour Jérôme Clément-Vils.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire L'amour sous algorithme. Vous êtes ou vous étiez sur Tinder ?
Non, j'étais pas sur Tinder. Pour être sincère, j'étais sur deux autres applications. J'ai rencontré trois couples dessus. Pour être sincère, d'ailleurs, le fait de faire ce film a un peu fait me poser des questions sur mon utilisation de mon téléphone en général et des applications en général. Et j'ai un peu revu à la baisse l'utilisation de mon téléphone.
Le livre de Judith Duportail que vous adaptez ce soir a fait grand bruit à sa sortie. Rappelez-nous la démarche, sa démarche à elle.
Donc, Judith avait une démarche donc à la fois d'études des relations affectives et amoureuses d'une femme trentenaire donc au 21e siècle, et aussi une démarche vraiment d'enquête, d'investigation sur... La question était simple, et de dire mais comment ça marche? Où vont mes données et comment sont-elles traitées? Et effectivement, elle a mis à jour tout simplement une boîte noire dans laquelle on n'a aucune vision, et elle a essayé de chercher en fait comment fonctionnait l'algorithme de Tinder. Donc il y avait deux démarches qui étaient de dire à la fois comment ça marche et d'autre part je veux mes données.
À la base, je cite de mémoire ce que j'avais reçu Judith Duportail il y a 3 ou 4 ans quand le livre était sorti, donc en 2019. Elle n'était pas contente parce qu'elle n'arrivait jamais à rencontrer des mecs mieux que ce qu'elle espérait. Elle s'est rendue compte que sur l'application on était noté, et donc comme elle n'avait pas une assez bonne note pour rencontrer des types qui avaient une note supérieure, et c'est pour ça qu'elle a voulu connaître l'algorithme de Tinder. Elle a réussi à obtenir 800 pages de toutes ses interactions avec tous les garçons avec qui elle a parlé. Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment vous avez adapté ceci en télévision?
Alors effectivement, le livre de Judith raconte le combat qu'elle mène pour récupérer ces 800 pages. C'est donc la productrice Myriam Veil qui a contacté Judith pour acheter les droits de son livre et qui m'a proposé comme réalisateur. Et la première question que j'ai posée à Judith, on a écrit ce film ensemble, je lui ai demandé quel pourrait être le présent de ce documentaire. Et on s'est dit, ces 800 pages qui sont un peu l'aboutissement de son livre deviendraient le début, le point de départ de ce film. Et donc, à travers ce film, nous allons les analyser, nous allons les faire analyser par des spécialistes qui peuvent être algorithmiciens, mathématiciens, etc., qui vont l'analyser de la même manière que pourraient le faire des applications, notamment des applications de rencontre, mais également d'autres types d'applications. On s'est dit, on va ouvrir le moteur.
Alors, vous êtes donc parti de toutes les conversations qu'elle a effectuées sur Tinder, plus de 800 conversations. Vous êtes arrêté sur une seule rencontre comme fil rouge. C'est le numéro 664 que vous appelez Match 664, puisque ça a matché, comme on dit. Un homme rencontré le 27 février 2017 à 8h45. Elle vous raconte cette rencontre. Extrait.
On commence à discuter tous les deux. Je lui dis, je suis dans mon lit, j'ai la flemme d'aller me faire un café, nanani, nanana. C'est la petite danse un peu de la séduction, où on minaude un peu tous les deux. Puis à un moment, je me dis, j'ai envie de faire un truc comme dans les films, un truc de femme fatale. Et je lui ai écrit, j'ai réfléchi à ma punchline, parce que quand même, j'avais envie que ce soit classe, enfin que ce soit... Et je lui dis, ramène-moi... Vu qu'il me dit que j'ai une super machine à café et machin, je lui dis ramène-moi un café et un orgasme.
Pourquoi la 664 et pas la 32 ou la 347? Je veux dire par là, pourquoi cette histoire précise au milieu des 800 qu'avait connu Judith?
Alors déjà, pourquoi une rencontre et pas toutes? Ça, c'était notre première question. Et on s'est dit, plus cette histoire est particulière, plus on peut s'y identifier, mieux ce sera pour la spectatrice et le spectateur. L'idée n'était pas de balancer juste 1000 informations à la personne qui va regarder le film, mais bien qu'on s'attache à une histoire. Et donc, c'est d'où l'idée d'en avoir qu'une. Et cette histoire avec le match 64, elle avait deux intérêts. La première, c'est qu'elle était très resserrée dans le temps, c'est-à-dire qu'il s'est passé en gros une heure entre le premier et le dernier message. Et surtout, ce qui nous intéresse, une heure entre le dernier message et l'arrivée de cet homme.
Vous allez faire analyser toutes les conversations échangées entre Judith et ses matchs Tinder par des spécialistes de différentes disciplines. C'est ça qui est neuf par rapport au livre original. Trois femmes ingénieures, il y a tout, Trine Bouvier, Albertine Meunier, Sylvie Tissot. Elles recherchent les thèmes abordés par Judith et avec ses matchs. Elles recherchent un mot-clé et elles comptabilisent combien de fois ce mot-clé a été utilisé dans toutes les conversations. Extrait.
D'ailleurs, moi, je trouvais qu'on parle peu de sexualité dans ces échanges. Donc, je ne sais pas si on pourrait regarder, justement, par rapport à la thématique de la sexualité, si on peut voir sexe, baiser, fuck, sexuel. Après, bon, on pourrait aller vers sein. Les seins, c'est pas mal. Bite, vagin, fesses, cul.
Ouais. Hop.
Mais là, c'est pas beaucoup non plus. Hein.
Non, c'est pas beaucoup. On s'aperçoit donc que sur les 3 ans d'échange qui ont été consignés dans le dossier, eh bien, il n'y a pas tant que ça d'usage d'un registre sexuel.
Eh bien, il n'y a pas tant que ça. On dirait qu'elles sont presque déçues.
Ben effectivement, c'est la promesse de Tinder et la promesse de nombreuses applications de ces rencontres sans lendemain, ces rencontres extrêmement rapides. C'est l'autre raison pour laquelle on s'est attaché à cette rencontre avec le Match 664, c'est que c'est la seule rencontre à caractère uniquement sexuel que Judith Duportail a eue pendant toute son utilisation de l'application. Et c'est intéressant parce qu'elle pose d'autres enjeux qui sont... qu'est-ce que c'est pour une femme que d'être un peu l'objet de cette gamification des relations. Et donc du coup, ce que dit très bien Judith dans le film, c'est de savoir à quel point la libération sexuelle a pu être captée par les créateurs d'applications, qui le font à leur profit. D'ailleurs, la plupart ont comme base de leur communication la glorification de la relation sans lendemain.
L'objet et en même temps le sujet, ces femmes sont ingénieures, elles ont aussi analysé les photographies, elles ont également analysé le but ultime de Tinder. On marque une courte pause, on revient avec vous, Jérôme Clément Wills, Culture Média, continue.
Mandel.
L'amour sous algorithme documentaire qui passe ce soir à 23h sur France 2 autour de l'amour, autour de l'application Tinder. Ça fait suite au livre du même nom, L'amour sous algorithme, signé Judith Duportail. Vous avez fait analyser les conversations de Judith Duportail, 800 conversations, pas moins, par trois femmes ingénieures dont on a entendu un extrait d'une conversation. Elles sont ingénieures en quoi ?
Ingénieures en informatique.
Le but de faire analyser ces échanges, c'était lequel ?
Le but, en fait, c'est de mettre à jour un procédé qui s'appelle le NLP, qui est le Natural Language Processing en anglais, qui est un procédé qui est extrêmement largement utilisé, qui est d'ailleurs assez ancien et assez simple, qui est qu'avec assez peu de phrases, assez peu de mots, il est très facile d'analyser à la fois les émotions, le niveau d'éducation, le niveau de richesse, etc. Et donc, du coup, il est très facile, et d'ailleurs, on le voit même à la fin du film, qu'avec quelques mots-clés, avec le nombre de voyelles, le nombre de phrases, le nombre de mots dans une phrase, de déterminer assez énormément de caractéristiques des personnes qui sont en train de les écrire.
Sans parler des fautes d'orthographe et des fautes de syntaxe qui jouent comme un marqueur social évident. Vous faites également analyser les photos publiées, échangées par Judith et ses partenaires, pas par des ingénieurs, par une intelligence artificielle. Vous découvrez quoi ?
Eh ben, on découvre que, pareil, quand on voit une photo, il est très facile de déterminer des caractéristiques sociales. Par exemple, on sait que les personnes plus aisées ont plus tendance à prendre des photos en noir et blanc, à mettre en photo des photos noir et blanc, si elles sont dans un cadre culturel, type musée, etc. Donc en fait, même une photo peut dire énormément sur nous. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, et ce que dit la sociologue qui intervient, c'est que nous aussi, on se comporte comme des algorithmes. C'est-à-dire que si je vois une photo sur une application de rencontre, je vais aussi très vite déterminer la classe sociale, éventuellement d'autres caractéristiques de la personne que j'ai en face de moi.
Et en fait, pas seulement si on pose devant une voiture dont on peut déterminer le prix, mais même je sais pas la manière de se tenir sur une chaise ou sur un canapé. C'est ça que vous dites.
Bien entendu, Marie Bergström, qui est la sociologue qui intervient dans le film, raconte très bien que les usages, la manière de se prendre en photo est extrêmement différente selon une personne CSP- ou CSP+. Et tout de suite, ça, on le reconnaît et nous-mêmes, on se comporte comme un algorithme et on choisit.
Une chose absolument phénoménale dans votre doc, pour permettre de comprendre le rôle des algorithmes, c'est leur rôle commercial. Et c'est ce que raconte Isabelle Collet. Elle est informaticienne, elle est professeure à l'Université de Genève et elle déconstruit le principe. Écoutez.
Là déjà, on peut estimer que l'utilisateur, l'utilisatrice est un peu floué.
parce que c'est pas nécessairement ce qu'il a demandé. On peut se dire, moi je voudrais rencontrer une vaste catégorie de personnes, c'est à moi de choisir à l'intérieur. Mais non, bien sûr, vous avez 150 000 personnes devant vous, il faut bien que l'algorithme fasse un tri. Pour Judith, évidemment, la finalité c'est de rencontrer des personnes. Simplement, il ne faudrait pas qu'elle rencontre l'amour de sa vie, sinon elle quitte l'application. Et là, c'est la fin du commerce.
Donc en fait, le but ultime qui est de rechercher l'âme sœur, si on la trouve, c'est la fin de Tinder et de ses concurrents. Donc le but non avoué de ces applications, c'est que vous ne rencontriez jamais la personne rêvée et que vous restiez toujours sur votre faim, c'est bien ça?
Bien entendu, et de manière encore plus profonde et beaucoup plus large, le problème c'est qu'il y a une technologie qui s'est développée depuis 20 ans sur laquelle on n'a aucune visibilité. Il y a encore extrêmement peu de conscience sociale et encore moins de conscience politique sur l'éthique des algorithmes. Ouais. Il n'y a encore, pour l'instant, aucune loi sur les algorithmes.
Comment ils se débrouillent ces algorithmes pour nous faire rencontrer des personnes qui séduisent, mais à qui ça ne va pas marcher forcément? Pas tout à fait.
Alors, déjà, la première chose, c'est le design, et notamment les applications de balayage, les applications de swipe, il y en a pas mal. C'est ce qu'on appelle le design de l'addiction, c'est-à-dire que dans leur design de gamification, c'est-à-dire qu'on considère que les gens sont comme des éléments d'un jeu vidéo, rien que ce design nous pousse à revenir encore. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est tout simplement de nous montrer des... En fait, c'est ce qu'on appelle le rabbit hole, parfois, c'est-à-dire c'est nous montrer des choses qui se ressemblent tout le temps, c'est-à-dire qu'ils vont toujours nous convenir. C'est un peu la même manière que dont YouTube ou Google fonctionnent également, c'est-à-dire qu'ils vont nous présenter des choses qui nous plaisent tout le temps. Mmh. Et vu qu'il y a toujours des choses qui nous plaisent, on continue.
Alors il n'y a pas que Judith qui témoigne dans votre documentaire de son rapport aux applications, il y a également d'autres témoins que vous compilez dans deux séquences qu'on va qualifier de symphoniques. On écoute.
Le premier mec que j'ai matché sur une app, il s'appelait Gros Outils. Je trouve ça génial d'aller rencontrer Gros Outils. J'y suis allée en me disant, mais qui est Gros Outils? J'ai envie de savoir.
Je lui ai dit très simplement, voilà, c'est soit, en gros c'est pour la vie, soit on se parle plus jamais.
Toute cette projection hyper fétichisante sur les prouesses des femmes noires au lit, alors ça j'en ai eu, mais tellement. Un mec m'a dit sur cette application que nous, on encaissait mieux. Comme si j'étais une voiture ou je sais pas. Donc je lui ai dit, mais enfin, comment tu peux dire des choses comme ça? Ça va pas bien.
Je lui ai dit, mais franchement, pas de prélis, rien comme ça. Et... Ah!
Je rencontre plus de gens dans la vraie vie. J'ai perdu la sociabilité.
Tous ces témoignages, je les ai recueillis comment? Ils sont vrais?
Oui, bien entendu, c'est vraiment des personnes qui sont venues d'ailleurs dans le même espace, ni meilleur que là où on a tourné le reste des spécialistes. Bien entendu, ce sont des vrais témoignages. Il y a eu une longue période où on a rencontré énormément de personnes de tous âges, de toutes régions, de tout type d'utilisation, des personnes qui ont beaucoup utilisé, d'autres moins, et qui toutes et tous nous ont raconté une grande dureté des rapports sur ces réseaux. Et moi, mon rôle en tant que réalisateur, c'était de voir comment, vous parliez de mise en scène symphonique, effectivement, comment parler de cette multitude, de se dire, mais en fait, toutes ces personnes, toutes ces intimités sont stockées dans les mêmes data centers, se promènent dans les mêmes tuyaux. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire, évidemment, avec la musique de Rhône qui sert complètement ce propos.
Le DJ Rhône, ouais, comment vous avez travaillé avec lui? Parce qu'on sent la musique, et on parlait des symphonies, elle est très prenante, cette musique, dans le doc.
Alors, Rhône, on avait déjà travaillé ensemble, j'avais fait un clip pour lui qui s'appelle Nouveau Monde. Et en fait, quand j'ai commencé la préparation de ce film, je voulais pas d'une musique trop justement électronique. Souvent, les documentaires qui parlent de nouvelles technologies sont un peu Minitel, quoi. Ouais. Et en fait, tout de suite, j'ai pensé à Erwan, à Rhône, ou parce que je trouve qu'il a en même temps quelque chose, ce côté un peu circulaire, assez hypnotique, assez lancinant, et en même temps quelque chose de très humain, de très mélancolique. Et donc, du coup, il m'a envoyé des premiers thèmes. Et après, c'était assez drôle. On a travaillé beaucoup par mail.
Toutes les scènes avec les experts, on reconnaît, ont été tournées au siège du Parti communiste français. Pourquoi ce choix? Parce que c'était beau?
Alors déjà, il faut saluer la production exécutive qui a rendu possible ce lieu. C'est magnifique. Il faut savoir que l'architecte Niemeyer a aussi designé Brasilia. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, comme référence pour ce film, j'avais beaucoup plus Brasil, voire Truman Show, que d'autres films beaucoup plus dits à haute technologie. Et je trouvais que dans ce lieu, il y a quelque chose de à la fois futuriste et en même temps quelque chose de très... les courbes sont presque humaines, presque corporelles.
On est d'accord, et même ce béton, juste un mot comme ça, hein, pour faire une passerelle. Demain, nous recevrons dans l'infomédia du jour le directeur du journal L'Humanité, justement Humanité et Communisme, même si c'est plus l'organe officiel du PC, c'est Fabien Gay, le sénateur. Merci beaucoup Jérôme Clément-Ville d'avoir été avec nous en direct. L'amour sous algorithme, c'est ce soir sur France 2 à 23h dans la collection Infrarouge, c'est présenté par Marie Drucker. Et ce même soir, c'est une soirée Love sur France 2, car votre doc sera diffusé à la suite de la série L'amour presque parfait. Juste